Chapitre 18. Marthe compromise. Pendant que les habitants de Cinq-Cygnes attendaient l'ouverture des débats à la cour criminelle et sollicitaient la permission de voir les prisonniers sans pouvoir l'obtenir, il se passait au château, dans le plus profond secret, un événement de la plus haute gravité. Marthe était revenue à Cinq-Cygnes aussitôt après sa déposition devant le jury d'accusation, qui fut tellement insignifiante qu'elle ne fut pas assignée par l'accusateur public devant la cour criminelle. Comme toutes les personnes d'une excessive sensibilité, la pauvre femme restait assise dans le salon où elle tenait compagnie à Mademoiselle Gouget, dans un état de stupeur qui faisait pitié. Pour elle, comme pour le curé d'ailleurs, et pour tous ceux qui ne savaient point l'emploi que les accusés avaient fait de la journée, leur innocence paraissait douteuse. Par moments, Marthe croyait que Michu, ses maîtres et Laurence avaient exercé quelque vengeance sur le sénateur. La malheureuse femme connaissait assez le dévouement de Michu pour comprendre qu'il était de tous les accusés le plus en danger, soit à cause de ses antécédents, soit à cause de la part qu'il aurait prise dans l'exécution. L'abbé Gouget, sa sœur et Marthe se perdaient dans les probabilités auxquelles cette opinion donnait lieu. Mais, à force de les méditer, ils laissaient leur esprit s'attacher à un sens quelconque. Le doute absolu que demande Descartes ne peut pas plus s'obtenir dans le cerveau de l'homme que le vide dans la nature, et l'opération spirituelle par laquelle il aurait lieu serait, comme l'effet de la machine pneumatique, une situation exceptionnelle et monstrueuse. En quelque matière que ce soit, on croit à quelque chose. Or, Marthe avait si peur de la culpabilité des accusés que sa crainte équivalait à une croyance, et cette situation d'esprit lui fut fatale. 5 jours après l'arrestation des gentilshommes, au moment où elle allait se coucher, sur les 10 heures du soir, elle fut appelée dans la cour par sa mère qui arrivait à pied de la ferme. « Un ouvrier de Troyes veut te parler de la part de Michu et t'attend dans le chemin creux, » dit-elle à Marthe. Toutes deux passèrent par la brèche pour aller au plus court. Dans l'obscurité de la nuit et du chemin, il fut impossible à Marthe de distinguer autre chose que la masse d'une personne qui tranchait sur les ténèbres. « Parlez, madame, afin que je sache si vous êtes bien madame Michu, » dit cette personne d'une voix assez inquiète. « Certainement, » dit Marthe, « et que me voulez-vous ? » « Bien, » dit l'inconnu, « donnez-moi votre main, n'ayez pas peur de moi. » « Je viens, » ajouta-t-il en se penchant à l'oreille de Marthe, « de la part de Michu vous remettre un petit mot. Je suis un des employés de la prison, et si mes supérieurs s'apercevaient de mon absence, nous serions tous perdus. Fiez-vous à moi. Dans les temps, votre brave père m'a placé là. Aussi Michu a-t-il compté sur moi. » Il mit une lettre dans la main de Marthe et disparut vers la forêt sans attendre de réponse. Marthe eut comme un frisson en pensant qu'elle allait sans doute apprendre le secret de l'affaire. Elle courut à la ferme avec sa mère et s'enferma pour lire la lettre suivante. « Ma chère Marthe, tu peux compter sur la discrétion de l'homme qui t'apportera cette lettre. Il ne sait ni lire ni écrire. C'est un des plus solides républicains de la conspiration de Babeuf. Ton père s'est servi de lui souvent et il regarde le sénateur comme un traître. » Or, ma chère femme, le sénateur a été claquemuré par nous dans le caveau où nous avons déjà caché nos maîtres. Le misérable n'a de vivre que pour 5 jours, et comme il est de notre intérêt qu'il vive, dès que tu auras lu ce petit mot, porte-lui de la nourriture pour au moins 5 jours. La forêt doit être surveillée, prends autant de précautions que nous en prenions pour nos jeunes maîtres. Ne dis pas un mot à Malin, ne lui parle point, et mets un de nos masques que tu trouveras sur une des marches de la cave. Si tu ne veux pas compromettre nos têtes, tu garderas le silence le plus entier sur le secret que je suis forcée de te confier. N'en dis pas un mot à Mademoiselle de Cinq-Cygnes qui pourrait canner. Ne crains rien pour moi. Nous sommes certains de la bonne issue de cette affaire et quand il le faudra, Malin sera notre sauveur. Enfin, dès que cette lettre sera lue, je n'ai pas besoin de te dire de la brûler car elle me coûterait la tête si l'on envoyait une seule ligne. Je t'embrasse tant et plus, signé Michu. L'existence du caveau situé sous l'éminence au milieu de la forêt n'était connue que de Marthe, de son fils, de Michu, des 4 gentilshommes et de Laurence. Du moins Marthe, à qui son mari n'avait rien dit de sa rencontre avec Peyrade et Corentin, devait le croire. Ainsi la lettre, qui d'ailleurs lui parut écrite et signée par Michu, ne pouvait venir que de lui. Certes, si Marthe avait immédiatement consulté sa maîtresse et ses deux conseils, qui connaissaient l'innocence des accusés, le rusé procureur aurait obtenu quelques lumières sur les perfides combinaisons qui avaient enveloppé ses clients. Même Marthe, tout à son premier mouvement comme la plupart des femmes, et convaincue par ces considérations qui lui sautaient aux yeux, jeta la lettre dans la cheminée. Cependant, mue par une singulière illumination de prudence, elle retira du feu le côté de la lettre qui n'était pas écrit, prit les 5 premières lignes, dont le sens ne pouvait compromettre personne, et les cousit dans le bas de sa robe. Assez effrayée de savoir que le patient jeûnait depuis 24 heures, elle voulut lui porter du vin, du pain et de la viande dès cette nuit. Sa curiosité ne lui permettait pas plus que l'humanité de remettre au lendemain. Elle chauffa son four et fit, aidée par sa mère, un pâté de lièvre et de canard, un gâteau de riz, rôtit 2 poulets, prit 3 bouteilles de vin et boulangea elle-même 2 pains ronds. Vers 2h30 du matin, elle se mit en route vers la forêt, portant le tout dans une hotte et en compagnie de Courreau qui, dans toutes ses expéditions, servait d'éclaireur avec une admirable intelligence. Il flairait des étrangers à des distances énormes, et quand il avait reconnu leur présence, il revenait auprès de sa maîtresse en grondant tout bas, la regardant et tournant son museau du côté dangereux. Marthe arriva sur les 3 heures du matin à la mare où elle laissa Courreau en sentinelle. Après une demi-heure de travail pour débarrasser l'entrée, elle vint avec une lanterne sourde à la porte du caveau, le visage couvert d'un masque qu'elle avait en effet trouvé sur une marche. La détention du sénateur semblait avoir été préméditée longtemps à l'avance. Un trou d'un pied carré, que Marthe n'avait pas vu précédemment, se trouvait grossièrement pratiqué dans le haut de la porte en fer qui fermait le caveau. Mais, pour que Malin ne pût, avec le temps et la patience dont disposent tous les prisonniers, faire jouer la bande de fer qui barrait la porte, on l'avait assujetti par un cadenas. Le sénateur, qui s'était levé de dessus son lit de mousse, poussa un soupir en apercevant une figure masquée et devina qu'il ne s'agissait pas encore de sa délivrance. Il observa Marthe, autant que le lui permettait la lueur inégale d'une lanterne sourde, et la reconnut à ses vêtements, à sa corpulence et à ses mouvements. Quand elle lui passa le pâté par le trou, il laissa tomber le pâté pour lui saisir les mains, et, avec une excessive prestesse, il essaya de lui ôter du doigt 2 anneaux, son alliance et une petite bague donnée par Mademoiselle de Saint-Cygne. « Vous ne nierez pas que ce soit vous, ma chère Madame Michu, » dit-il. Marthe ferma le poing aussitôt qu'elle sentit les doigts du sénateur et lui donna un coup vigoureux dans la poitrine. Puis, sans mot dire, elle alla couper une baguette assez forte, au bout de laquelle elle tendit au sénateur le reste des provisions. « Que veut-on de moi ? » dit-il. Marthe se sauva sans répondre. En revenant chez elle, elle se trouva, sur les 5 heures, à la lisière de la forêt et fut prévenue par Courreau de la présence d'un importun. Elle rebroussa chemin et se dirigea vers le pavillon qu'elle avait habité si longtemps. Mais, quand elle déboucha dans l'avenue, elle fut aperçue de loin par le garde champêtre de Gondreville. Elle prit alors le parti d'aller droit à lui. « Vous êtes bien matinale, Madame Michu ?» lui dit-il en l'accostant. « Nous sommes si malheureux, répondit-elle, que je suis forcée de faire l'ouvrage d'une servante. Je vais à Bellache y chercher des graines. »« Vous n'avez donc point de graines à 5 cygnes ?» dit le garde. Marthe ne répondit pas. Elle continua sa route et, en arrivant à la ferme de Bellache, elle pria Beauvisage de lui donner plusieurs graines pour semences en lui disant que M. d'Auxerre lui avait recommandé de les prendre chez lui pour renouveler ses espèces. Quand Marthe fut partie, le garde de Gondreville vint à la ferme savoir ce que Marthe y était allée chercher. 6 jours après, Marthe, devenue prudente, alla dès minuit porter les provisions afin de ne pas être surprise par les gardes qui surveillaient évidemment la forêt. Après avoir porté pour la 3e fois des vivres au sénateur, elle fut saisie d'une sorte de terreur en entendant lire par le curé les interrogatoires publics des accusés, car alors les débats étaient commencés. Elle prit l'abbé Gouget à part et, après lui avoir fait jurer qu'il lui garderait le secret sur ce qu'elle allait lui dire comme s'il s'agissait d'une confession, elle lui montra les fragments de la lettre qu'elle avait reçue de Michu en lui en disant le contenu et l'initia au secret de la cachette où se trouvait le sénateur. Le curé demanda sur le champ à Marthe si elle avait des lettres de son mari pour pouvoir comparer les écritures. Marthe alla chez elle à la ferme, où elle trouva une assignation pour comparaître comme témoin à la cour. Quand elle revint au château, l'abbé Goujet et sa sœur étaient également assignés à la requête des accusés. Ils furent donc obligés de se rendre aussitôt à Troyes. Ainsi, tous les personnages de ce drame, et même ceux qui n'en étaient en quelque sorte que les comparses, se trouvèrent réunis sur la scène où les destinées des deux familles se jouaient alors.